Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, je suis avec un auteur de bande dessinée, un dessinateur qui s'appelle Mei Peck. Bonjour.
Bonjour.
Alors la raison pour laquelle je l'ai invité sur le podcast, c'est parce que il a réalisé une bande dessinée sur le vin et évidemment sur des sujets qui intéressent les sceptiques à propos du vin. Mais alors évidemment, c'est un sujet de BD très original, la biodynamie, etc. et les autres sujets connexes. Donc ouais, ma première question, c'est comment en es-tu venu à traiter d'un sujet aussi original pour une BD?
C'était pas prémédité. En fait, je voulais faire un sujet un peu ludique parce qu'auparavant, j'avais fait une BD un peu plus lourde sur les sans-papiers, tout ça. Donc, je voulais prendre un sujet plus sympa. Et en fait, je prenais des cours d'œnologie chez un. Enfin, des cours, non, des séances d'œnologie où on buvait, quoi, chez un caviste, en fait. Et. Lui, il était fan de BD, donc c'est comme ce que je raconte dans le livre, en fait, ça s'est passé vraiment comme ça. C'est-à-dire que lui, il était fan de BD, moi, je cherchais un sujet. Du coup, on est parti sur l'idée de faire une BD sur le vin. Et au départ, on voulait faire un peu sur sa cave et tout, mais je cherchais quand même un sujet un peu plus intéressant que ça. Et en fait, je suis tombé sur la biodynamie parce qu'il recevait des viticulteurs, des vignerons qui faisaient ça. Et en regardant ce que c'était, ben, j'étais assez surpris. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un truc à creuser là-dedans. En plus, par hasard, pardon, juste par hasard, on avait commencé par faire un stage pour le livre chez les Bourguignons, les époux Bourguignons, qui sont des scientifiques qui travaillent sur le vin, les sols et par ailleurs la biodynamie.
Oui, d'ailleurs, on va montrer la BD, hein. C'est Cosmo Bacchus. Et alors, il y a trois tomes en plus. Parce que non seulement, tu as vraiment fait un. Enfin, moi, j'étais impressionné par l'ampleur du travail que tu as réalisé. Parce que franchement, je me suis dit, waouh, ça a dû demander beaucoup de. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça que je te demandais comment tu en es venu à faire cette BD. Mais effectivement, tu te mets en scène dans la BD et tu racontes finalement aussi au départ comment. Comme tu viens de le dire, comment tu en es venu à t'intéresser dans le sujet. Mais forcément, j'étais un peu curieux de savoir dans quelle mesure tu avais un peu, comment dire, romancé la chose, ou dans quelle mesure ça correspondait à la réalité.
Le tome 1, le tome 2, et bon, le tome 3, j'ai un peu plus romancé la fin. Mais les deux premiers tomes, ça correspond vraiment à quelques détails près, quoi, mais vraiment en marge. Sinon, bon, la tête du caviste, c'est pas la même. Il n'était pas breton et tout, mais sinon, ça s'est passé comme ça, en fait, vraiment. Ouais.
Ouais. T'as dû quand même changer un peu les noms de certaines personnes, et enfin, je veux dire, un peu, comment dire, aménager comme ça les sensibilités, ou bien est-ce que c'est quasiment un travail journalistique que tu présentes sous forme de BD?
Oui, on peut dire ça, ouais. Non, non, j'ai pas changé les noms des gens. Des gens interviewés, ça aurait pas eu de sens de les changer, parce que bon, souvent, c'est des personnages plus ou moins publics, hein, donc ils étaient au courant que je faisais une BD et tout, alors ils pensaient peut-être pas que j'allais faire un travail critique, ils pensaient peut-être que j'allais faire un travail. Bon, enfin, moi j'ai enregistré ce qu'ils m'ont dit et je l'ai retransmis. Hein. Après, c'est le lecteur qui se fait son idée.
Bon. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ça. En tout cas, quand il y a des interviews, bon, c'est vrai que ça t'arrive dans les discussions avec ton copain de commenter un peu l'action, mais dans les interviews, on sent que tu remets vraiment ce que les gens ont dit tel quel, sans au lecteur de juger.
Voilà, oui, moi je dis ça, je triche un peu, mais je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut penser. Moi, je suis là pour, je suis là pour ce que je veux, mais là, dans le projet, c'était vraiment de rendre compte de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, parce que ça se suffit à soi-même. C'est assez dingue ce que j'ai entendu, je n'avais pas besoin d'en rajouter, quoi. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait par ailleurs, c'est plus des lectures dont j'ai rendu un petit peu compte par des extraits dans la BD. Et après, il y a tout le travail d'image qui part un peu, d'image et de mise en scène qui aiguille un peu quand même le lecteur sur ce que je peux penser, mais dans ce qui est dit et dans ce qui est montré, ouais, non, c'est ce que j'ai vu, quoi. En fait, j'ai vraiment essayé que les gens se fassent leur idée, quoi. Voilà.
Moi, en fait, c'est vrai que je ne te connaissais pas du tout. C'est d'ailleurs même toi qui m'as contacté après le dernier épisode qu'on a fait sur Steiner et Co. J'ai même été étonné, parce que je discutais avec d'autres amis sceptiques sur Facebook, et c'est vrai que ça a un peu passé en dessous de notre radar. J'ai deux questions. Mais donc la première, ça serait, comme tu fais un travail plutôt journaliste, qu'est-ce que tu as, quel est ton parcours, comment tu en es venu à faire ce genre de BD, en fait, tu t'es formé comment, enfin, juste par curiosité.
Oh ben, moi j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, pas du tout spécialement journalistique, hein. En fait, là j'en fais depuis assez peu de temps, parce que Cosmo Bacchus, là c'est 3 tomes, et avant j'avais fait un livre aussi documentaire, donc comme je te disais, sur les sans-papiers, puis un livre jeunesse sur les sans-papiers aussi. Et en fait, bon, c'est venu comme ça, c'est un peu une longue histoire, mais je suis venu à faire ce premier livre sur les sans-papiers, parce que j'étais graphiste et je voulais faire de la BD, et je m'autorisais pas à le faire, quoi. Là, d'être dans une association, je suis dans une association d'aide aux personnes sans-papiers, qui avait des histoires incroyables à raconter, du coup, je les ai racontées, quoi. Là, je me suis autorisé à le faire, et du coup, après, je suis parti. Comme j'avais commencé par un truc documentaire, j'ai continué sur ma lancée, mais bon, c'est pas du tout sûr que je continuerai à faire ça par la suite, bon. On verra.
Oh, mais c'est vraiment chouette. Oui, donc ma deuxième question, c'était aussi, est-ce que tu étais familier du mouvement sceptique ou zététique avant de te lancer dans la BD, ou c'est quelque chose que tu as
Non, pas du
découvert
tout. Non,
en le
non, non, non.
faisant?
C'est venu avec cette BD-là, en fait, hein. Au contraire, au contraire, moi, j'étais plutôt bien à fond sur le bio et la biodynamie, notamment, parce que je ne savais pas trop ce que c'était, en fait. Donc, ça m'intéressait, les vents en biodynamie, je trouvais ça super, l'agriculture naturelle et tout. Et je suis d'autant plus tombé des nues quand j'ai gratté ce qu'il y avait derrière, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tous les podcasts, à tout ce qui existe en ce moment là-dessus, quoi. Voilà, mais sinon, non, non, je savais très peu que ça existait, en fait, hein.
Ouais, c'est marrant. Évidemment, dans la BD, tu parles de Grégoire Perra. Tu as eu des contacts avec lui dans le cours de la BD.
Ouais, ben, c'est en faisant des recherches sur la biodynamie que je suis forcément tombé sur son blog, qui a été un des points de départ, quoi, hein, du truc, en me disant, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Après, je suis tout simplement allé sur Wikipédia et j'ai vu que tout ce qu'il disait dans son blog, c'était aussi dans Wikipédia, curieusement. Et donc, après, ben, j'ai acheté les bouquins de Steiner, voilà, j'ai creusé vraiment la question, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que je suis graphiste, je n'ai pas une formation scientifique, j'ai fait des arts appliqués. Malgré tout, j'ai fait un bac scientifique et puis j'ai des scientifiques dans ma famille. J'ai un cousin qui fait de l'épistémologie, qui est chercheur en épistémologie, mes parents sont ingénieurs, bref, j'ai des liens dans ce milieu-là, donc j'ai peut-être un esprit un peu carré pour un artiste, je ne sais pas, mais ça m'a choqué quand même. J'ai été assez choqué de ce qui se dissimule. En fait, après que les gens croient des choses, bon, ben, libre à eux, hein. Mais c'est aussi le fait de la dissimulation et de la manipulation des gens, finalement, par la biodynamie. Parce que moi-même, j'étais assez fan, et quand je me suis rendu compte de ce que c'était, je me suis dit, oula, on me manipule, en fait. Voilà, donc ça ne m'a pas plu.
Ouais, c'est ça, ouais. Raconte-nous un peu, donc comment ta descente dans les écrits de Steiner et tout, enfin, même si tu en parles dans la BD, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que moi, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que tu présentes beaucoup de, enfin, t'es vraiment bien documenté. C'est vrai que moi, comme je le disais dans l'autre podcast que j'avais réalisé, c'est vrai que je connais un peu Steiner et j'ai retrouvé plein d'éléments. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas, je trouve que tu expliques vraiment super bien. Par exemple, je crois que c'était dans le premier tome, le fait qu'ils ont tendance à mettre en avant la figure de Goethe, pour se cacher, ça c'est vraiment très typique, je trouvais, et tu l'expliques super bien.
Ben ça, je l'ai vécu, hein. Après, j'en ai discuté toujours avec Grégoire Perra, le fameux, qui me l'a dit dans la conversation. Et comme je l'avais déjà vécu, bon, ben, je me suis dit, oui, effectivement. Et après, on le voit aussi dans les écrits. Alors, je pense que c'est bien expliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas, parce que moi, je ne connaissais pas. J'ai montré ce que j'ai découvert, quoi. Donc, forcément, c'était peut-être plus facile que pour quelqu'un qui est déjà bien dedans, qui connaît tout et qui doit inventer quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas, je découvre tout ça et je raconte en fait au fur et à mesure tout ce que je découvre. Parce que quand j'ai fini le premier tome, j'avais pas encore, j'étais pas encore au point de là où je suis arrivé en finissant le troisième tome, quoi. C'est-à-dire, j'avais pas encore conscience de tous les liens qu'il pouvait y avoir avec les idéologies, voilà, du passé, on va dire.
Et t'es directement parti sur l'idée de faire plusieurs tomes ou bien c'est en réalisant la BD qu'au fur et à mesure tu te rends compte que tu t'es rendu compte que tu avais encore du matériel à courir?
Au départ, j'avais prévu un seul tome, mais assez touffu quand même, qui aurait dû faire dans les, quand même, les 200 pages. Et du coup, quand j'ai trouvé un éditeur, une éditrice, je lui ai dit, ça serait bien de faire 3 tomes quand même, parce que j'ai beaucoup de matière. Et elle m'a dit, ouais, pas de problème. Alors, super. Donc, j'ai fait le premier. Et ça a été bien parce que j'ai continué mes recherches, du coup, dans les... En faisant le premier tome, je continue les recherches pour le deuxième et pour le deuxième, troisième. Et donc, du coup, ça vraiment, ça m'a permis d'approfondir plus le sujet que si j'avais fait un seul tome ou que si j'avais pu faire les 3 tomes comme j'avais prévu au départ, quoi. Voilà.
En tout cas, aussi, ce qui m'a bien plu en lisant la BD, c'était je trouve que ton style graphique correspond super bien au type de récit. Je sais pas comment, enfin, il y avait une adéquation entre ta façon de dessiner et le type de récit. Enfin, encore pour les auditeurs, par exemple, dans la couverture du deuxième tome, là, on voit Harry Mann. Et alors, évidemment, j'aimais bien, il y a le démon. Et puis, alors, les parties privées, c'est une grappe de raisin, évidemment. Il y a plein de petits détails comme ça au fur et à mesure qu'on découvre qui sont super marrants. Parce que, dans le fond, ça devait être aussi assez humoristique. Enfin, il y a beaucoup de blagues, beaucoup d'humour.
Ben, comme au départ, comme je te disais, je voulais faire un truc plus pour rigoler par rapport à mon premier livre sur la migration et tout. Bon, j'ai quand même continué dans cet esprit. Et puis moi, franchement, les écrits de Steiner, ça m'a fait rire, quoi. Enfin, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui le prennent très au sérieux, mais quand on tombe là-dessus de but en blanc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Enfin, pour moi, c'était très drôle. En fait, j'ai lu quelques bouts. Je n'ai pas tout lu, évidemment, j'en ai lu quelques-uns. Mais bon, après, on a la nausée au bout d'un moment, mais quand on découvre ça et qu'on commence à lire des trucs un peu au hasard, on se dit, mais c'est un univers incroyable, quoi. Après, la prose est particulière, enfin, faut. Voilà, c'est assez lourd comme prose et voilà, mais toutes ces histoires. Après, j'ai découvert aussi que tout ce qu'il racontait, ça venait pas de lui, qu'il n'avait pas inventé grand-chose finalement. Ça vient de la théosophie, puis des Rose-Croix, puis d'autres philosophies ou doctrines. Voilà. Mais quand on tombe là-dessus et qu'on ne connaît pas du tout, c'est. Ah ouais, après même les elfes, enfin les. Les sylphes, les êtres élémentaux, enfin, c'est mort de rire, quoi, quand même.
Et c'est
Les
vrai que
anges,
c'est.
les hiérarchies angéliques, tout ça.
On se demande, ouais, c'est ça, c'est la réaction qu'on a, c'est on se demande comment les gens peuvent prendre ça au sérieux. Effectivement, c'est une sorte de. On a dû. Ouais, moi, j'ai du mal à me projeter dans la position de quelqu'un qui pourrait lire ça et se dire, ah bah oui, c'est forcément. Enfin, c'est juste ce qu'il décrit, c'est assez surréel. Mais.
Ouais.
Enfin voilà, toi, donc dans la BD, t'es accompagné d'un caviste là, et vous allez boire beaucoup de vin.
Oui, mais ça c'est vrai.
C'est vrai que tu dessines le caviste sous assez souvent dans la BD d'ailleurs, c'est assez marrant. Ouais. Mais ouais, enfin, et donc, je sais pas, enfin, moi en lisant, c'est ça, comme je ne fréquente pas ces milieux-là, finalement j'ai l'impression que je sous-estime l'importance de ces doctrines dans les milieux du vin. Enfin, tu peux nous en dire un mot. Enfin, je veux dire, à quel point tu as rencontré ça dans ton enquête?
Alors, moi, de mon côté, j'ai un point de vue aussi biaisé parce que je me suis intéressé à ça, donc j'en ai vu tout le temps partout, mais parce que j'allais là où ils étaient aussi, hein. En fait, l'agriculture biodynamique, ça représente un tout petit pourcentage, c'est de l'ordre de 1%, même pas de la. Mais c'est très à la mode, ça se développe, c'est très apprécié par les médias, notamment par pas mal de médias. Ça a une très bonne image, donc ça se développe pas mal, quoi. Après, tous les agriculteurs et tous les viticulteurs en biodynamie ne sont pas non plus des fanatiques de Steiner. Il y en a qui font ça par opportunisme, un peu marketing, parce que justement ça marche bien, puis ils sont bio et tout. Puis bon, ils prennent Steiner avec un peu de distance, hein. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a qui sont un peu dedans, qui commencent à lire et tout, et puis qui petit à petit s'y mettent. Et il y en a quelques-uns qui sont à fond, à fond. Il y en a aussi pas mal qui sont vraiment à fond, quoi. Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir que, bon, ben, sortant de la biodynamie, ça a happé plein de domaines dans la société, plein de, voilà, donc l'éducation, la banque, ben, tous les domaines, en fait, quasiment. Et notamment tout ce qui était écologie, économie fraternelle, solidaire, tout ça. Et que si on fait le total des comptes, c'est beaucoup, énormément présent dans la société. L'anthroposophie, je ne sais pas si on a prononcé le mot encore, mais bon, les fidèles du podcast connaissent. Mais voilà, l'anthroposophie qui est à la base de la biodynamie et a une place relativement considérable. On a même vu des ministres qui étaient là-dedans, enfin François Nyssen, et puis voilà. Donc globalement, ça prend une place de plus en plus grande, en fait. En fait, si je peux, c'est ça qui m'a même un peu alerté, c'est que comme il y a des problèmes écologiques qui sont, bon, ben, le GIEC en parle, c'est pas des pseudo-sciences a priori, hein. Donc on a vraiment un changement climatique, on a vraiment une disparition des espèces et de la pollution de l'environnement. Donc comme on l'a vu là. Au municipal, ce que j'avais prévu, c'est qu'on a l'écologie qui est de plus en plus présente. Et dans l'écologie, on a tout ce courant New Age qui vient avec, quoi, hein, parce qu'ils sont très, très, très présents voilà. Et donc, ça se développe, quoi. Et ça va de plus en plus, à mon avis, se développer. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut quand même. Donc je rigole, mais j'ai quand même un fond d'inquiétude à ce niveau-là en me disant, voilà, quand on voit Cyril Dion qui s'occupe de la Convention citoyenne pour le... Alors Cyril Dion, c'est un cas un peu particulier, j'en parle pas hein, dans mon livre, hein, parce que lui, il dit qu'il connaît pas la biodynamie et tout, mais comme il a été président des Colibris et que les Colibris sont à fond biodynamie et anthroposophie, ça paraît difficilement croyable, sa position. Mais bon, peut-être. Après, le monde est parfois très surprenant. Mais bon, pour dire que voilà, ça se développe et d'une façon un peu inquiétante, à mon avis.
Oui, pour revenir sur le sujet du vin, moi c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout. Donc c'est vrai que au tout début, donc tu vas suivre une formation et enfin ce que tu décris assez bien, c'est que la formation, il y a l'air d'avoir des éléments scientifiques sérieux et en même temps en arrière-bande, comme ça en Belgique on dirait en stoumeling. C'est une française belgique. Par l'arrière, ils ont l'air de vouloir essayer de caser. Et il y a une sorte de contraste entre un enseignement plutôt scientifique et puis une fois qu'ils partent sur la biodynamie, enfin, ouais, tu peux en dire un mot.
Ben, c'est les époux Bourguignon, Claude Elia de Bourguignon qui ont un labo de. Alors, c'est des gens qui étaient à l'INRA et qui ont trouvé que l'INRA était aux mains de l'agrochimie, etc. Donc, sont séparés, qui ont fait leur labo à part, mais qui sont très médiatisés dans tous les milieux écologiques. Voilà, parce qu'ils parlent de revitaliser la vie des sols, de très bien. Effectivement, moi, j'ai suivi leur formation et je les connaissais déjà par des associations d'écologie, des jardins familiaux, voilà. Et je ne m'attendais pas tellement, en fait, à la base, à ce qu'ils parlent de biodynamie. Je suis allé sans penser à ça, quoi. Et bon, après, en regardant leurs vidéos YouTube, j'ai vu qu'ils en parlaient quand même beaucoup. Et c'est vrai que la formation avait un air très scientifique. Alors, ils sont controversés parce qu'ils sont aussi assez catastrophistes, hein. Ils disent que les sols sont morts un peu partout, qu'ils partent dans l'érosion et tout. Donc, ils sont controversés. Malgré tout, je pense que dans ce qu'ils disent au niveau scientifique, il y a une part de vérité. Et après, ils sont très axés biodynamie, étonnamment. Ouais. Alors, c'est ça qui est très étonnant, c'est que ça peut cohabiter dans un cerveau humain, une partie complètement, scientifique, quoi, parce que bon, ils connaissaient, nous parlaient du tableau périodique des éléments, des membranes des cellules, des trucs, donc tout, vraiment, voilà, c'était même un peu pénible pour quelqu'un qui n'était pas scientifique de métier ou qui n'est agriculteur d'entendre toutes des histoires d'ions qui traversent les membranes et tout. Et à la fin, ils nous parlent de biodynamie en disant, ouais, c'est super et tout. Et donc, je pose la question, je dis, comment vous conciliez ça avec la science que vous. Ah, mais ça c'est de la poésie, c'est les éléments subtils, donc faut écouter Steiner parce qu'il nous met en alerte et tout. Et donc ouais, je l'explique difficilement en fait, hein, mais ça cohabite, ouais, ça cohabite. Après il y a des médecins qui des grands scientifiques qui sont très mystiques et croyants dans des religions, voilà, par ailleurs, hein. Donc bon, l'être humain est une créature complexe, on va dire, hein.
Ouais, c'est des choses qu'on observe qui sont assez, ouais, des compartimentalismes comme ça dans la tête des gens, c'est assez bizarre. Mais ouais, et puis oui, pour la part de la biodynamie et de le fait que tu cherchais à aller leur parler, enfin, aux gens qui travaillent dans ce domaine-là, à un moment tu vas dans un congrès du vin, et alors, parce que moi j'y connais vraiment rien, alors je découvrais tout ça avec fascination. Mais donc, dans le congrès du vin, il y a les grandes marques dont la plupart des personnages disent beaucoup de mal d'ailleurs. Et puis alors, il y a une sorte de, pas de congrès parallèle, mais d'une sorte de second pavillon pour les gens qui ont des pratiques un peu différentes. Comment tu fais décrire ça un peu?
Bah, c'est Vinexpo, donc Vinexpo Bordeaux. Je ne sais pas s'ils le refont encore. Donc Vinexpo Bordeaux, effectivement, il y a toutes les grandes marques du vin. Alors j'ai un peu tapé dessus aussi parce qu'il y a des choses à dire à ce niveau-là aussi, donc autant les dire. Du vin conventionnel, quoi. Et derrière, le petit. Comment ça s'appelle? Enfin bon, c'est le salon bio de Vinexpo. Donc, déjà, c'est un truc un peu curieux. Mais bon, très bien. Parce que c'est du marketing, ça, clairement, c'est du marketing. Donc, il y a le bio de Vinexpo où il y a des agriculteurs bio voilà, qui vendent leurs trucs, quoi. Et qui sont un peu plus. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de biodynamie là-dedans, c'est plus du
Dans la BD, ils appellent ça bioexpression.
bio-expression, oui,
Dans le
voilà.
hall 2 de.
Ouais, c'est ça, voilà. Et oui, ben ça c'est un positionnement marketing, comme les vins de Bordeaux savent que le vin conventionnel est très critiqué à cause d'histoires de pesticides, à cause d'histoires de, voilà, notamment de pesticides, ouais. Donc ils font leur truc pour ratisser large, quoi. Et après, on est allé à un autre salon du vin à Bordeaux. En fait, on n'y est pas allé la même année. Moi, j'ai tout rassemblé en une année pour que ce soit. Mais qui se tenait aussi cette année-là où on y était allé, simplement. Bon, et qui est le truc de Nicolas Joly, Biodivin. Non, c'est pas Biodivin, c'est Renaissance des appellations. Et là, où il n'y a que des. En fait, c'est un club de biodynamistes, quoi. Lui, c'est vraiment un truc de biodynamie, très exigeant. C'est souvent des excellents vins parce qu'ils sont sélectionnés à la base, quoi. Et là, par contre, ouais, ils sont à fond, ouais, sur la biodynamie. Et lui, Nicolas Joly, qui fait des vins d'Anjou, enfin, de Serran, c'est vers la Loire, vers l'Anjou. Lui, il est vraiment à fond. Lui. Alors lui, c'est très étonnant. Et j'ai encore vu une interview de lui qui est sortie très récemment. Et lui, ouais, il va très très loin dans les doctrines anthroposophiques de Steiner. Puis il en rajoute, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a un panel assez large, quoi.
Ouais, c'est vrai que même dans les gens que tu interviews, t'as un panel de enfin, t'as vraiment toutes sortes de personnalités différentes avec des positionnements différents par rapport à la biodynamie. C'est intéressant de voir. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi on va plus loin que la biodynamie ou on fait des choses en plus que la biodynamie.
Ah oui, ça c'est les cosmoculteurs, ouais, notamment.
Ouais.
Oui, alors normalement la biodynamie, c'est juste les gens qui veulent aller plus loin que la bio, ils prennent en compte les dimensions subtiles et alors ils vont dans la biodynamie. Mais après, ouais, il y a des gens, ils sont quand même assez rares ceux qui vont encore plus loin que la biodynamie, parce que là ça devient. Mais bon, il y en a, les cosmoculteurs, eux, enfin, c'est une marque déposée, hein, il n'y a qu'un viticulteur qui fait ça. Mais ils prennent en plus en compte les courants telluriques. Voilà, ils font mettre des pierres levées pour capter les ondes cosmiques et tout, de la Terre, du ciel. Voilà.
Oui, le
Et...
passage où tu vas voir les pierres, enfin les sortes de dolmens, c'est surréel, quoi.
Ouais, c'est fou, ouais. Oui, et puis en plus, les gens, quand on discute avec eux, ils ont l'air sains d'esprit. Ils sont d'ailleurs sains d'esprit, c'est juste qu'ils n'ont pas la même logique que nous, quoi, que moi, en tout cas. Et donc, c'est très étonnant, ouais. Enfin, ils n'ont pas la même logique. En tout cas, ils croient à des choses différentes. Alors, ça n'en fait pas des fous, hein, mais ça en fait des gens avec qui on partage un peu moins de choses, quoi, on va
C'est
dire.
vrai que si on baigne tout le temps dans les milieux nouveaux, on apprend et on a des tas d'idées bizarres qui traînent dans notre tête, c'est ça. Et alors après, on travaille avec ça comme si c'était des choses qui étaient correctes ou scientifiquement, quoi.
Ben, c'est-à-dire que moi, j'en suis venu à constater que chacun se fait un modèle du monde dans son cerveau, hein, forcément. Et donc, si on part pas sur les mêmes bases, sur les mêmes principes à la base, eh ben, tout ce qu'on voit va être interprété différemment. Donc, l'anthroposophie, c'est des gens qui pensent que la matière physique est une illusion. Et bon, ben, on peut pas leur prouver l'inverse, hein, c'est compliqué. Donc, à partir de là, tout ce qu'ils voient, ils l'interprètent différemment des gens qui pensent que la matière physique est réelle. Voilà. Et donc, ça peut dévier loin. Notamment Steiner, toutes ces histoires, ça vient du fait que quand il se pose et qu'il se médite, qu'il fait de la méditation, il a des idées qui lui viennent. Et pour lui, la réalité, c'est pas ce qu'il voit, ce sont ses idées qui lui viennent quand il médite, puisque c'est l'esprit qui est vrai et pas la matière. Donc, à partir de là, c'est open bar, quoi. Enfin, c'est, voilà, tout peut arriver, quoi. Et tout arrive, effectivement.
Au niveau des pratiques de ces viticulteurs, qu'est-ce qui t'a semblé, enfin, je sais pas, tu as des exemples de choses comment ils font? Enfin, il y a l'histoire de la corne, évidemment, dont on peut parler. Mais si. On a déjà mentionné chez les Cosmos, les dolmens. Enfin, il y a
Ouais.
d'autres choses dont tu veux parler, dans les pratiques bizarres qu'ils ont pour améliorer la qualité du vin.
Alors, ce qui est intéressant, bon, les pratiques, ben, en fait, globalement, ça se résume, bon, ben, c'est de l'agriculture biologique sans produits et tout, plus des potions magiques, en fait. C'est vraiment de la magie blanche, hein, ce qu'eux, ils appellent, enfin, Steiner et les vrais anthroposophes appellent ça de la magie blanche. Donc, bon, ben, en général, c'est des plantes qu'ils associent à un organe d'animal et tout ça est associé à une planète, en général. Voilà. Donc c'est une association de ces trois choses parce que c'est une logique par analogie en fait, c'est pas du tout observation, déduction, truc comme ça. C'est analogie, donc c'est la vessie du cerf. Alors la vessie c'est tel organe parce que c'est les flux, je sais pas quoi. Le cerf il est très sensible donc c'est lié à la vessie. Puis dedans ils vont mettre une feuille, alors je sais plus si là qu'il est mille feuilles dans la vessie de cerf. Parce qu'elle est liée aussi à l'eau, voilà. Voilà, c'est une logique comme ça, ça, ils vont le mettre dans leur produit. Voilà. Donc, ce n'est pas des trucs très spectaculaires, je parle globalement de la biodynamie, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement ce qu'ils font, c'est pourquoi ils le font, en fait, et pourquoi ils font ça. Ben, c'est des offrandes, en fait, aux êtres élémentaux, voilà. Et les êtres élémentaux, ben, c'est justement les sylphes, les ondines, les salamandres et j'en oublie un, une quatrième qui correspond aux quatre éléments, quoi, et aux gnomes pour la terre, voilà, et qui eux s'occupent des plantes, s'occupent de tout le paysage en fait, sont des lutins, quoi, en fait, hein, qui s'occupent du paysage. Et pourquoi c'est les lutins? Parce que c'est les hiérarchies angéliques qui ont créé le monde, mais eux peuvent pas manipuler la matière parce que c'est une chose trop impure pour eux, donc ils ont créé des êtres intermédiaires. Voilà. Et donc il y a des êtres élémentaux qui sont bons, enfin ils sont naturellement bons, mais seulement il y a des démons qui peuvent les accaparer. Alors ça c'est Ahriman par exemple, c'est le méchant, c'est Ahriman. Et lui c'est Satan en fait, donc il peut pervertir les êtres élémentaux. D'ailleurs tout ce qui est technique, c'est Ahriman. Donc tout ce qui est, c'est pour ça que voilà, ils font... qu'ils font beaucoup, c'est dynamiser leur solution, leur produit. Ils les dynamisent, c'est-à-dire ils les remuent dans un seau d'eau. Alors normalement, il faut le faire à la main, parce que si c'est technologique, c'est Ahriman qui rentre dedans,
Oui, ça ressemble
quoi.
à la dynamisation homéopathique, hein, c'est la même idée, je suppose.
Oui, c'est la même chose. En fait, il y a une homéopathie spécifique à l'anthroposophie.
D'accord.
C'est l'homéopathie des laboratoires Velleda, en fait, hein. L'homéopathie Boiron, pour eux, c'est très ahrimanien parce qu'ils ont des appareils quoi, technologiques. Normalement, il faut faire ça avec des objets en bois et tout. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les écoles Steiner, par exemple. C'est qu'il n'y a pas d'objets en métal ou d'objets technologiques. C'est des craies, des jouets en bois, parce que sinon, ça tombe sous le joug du démon ahriman. Voilà, ce qu'il faut éviter.
Ouais, c'est
Donc,
ça.
pour nourrir ces êtres élémentaux de façon bénéfique, on leur donne de la biodynamie, voilà, et là ils sont dans le droit chemin.
Et qu'est-ce qu'ils font vraiment avec ils mettent ça dans des flacons et ils les mettent dans les champs. Enfin, en pratique, comment ils font ça?
Alors, bon, bah, la bouse de corne, comme je disais, ils en mettent une petite quantité dans des grandes quantités d'eau et ils dynamisent ça et ensuite ils pulvérisent sur leurs vignes. Ils font pareil avec des solutions de silice, donc de sable en poudre, quoi. Et sinon, ils font des composts dans lesquels ils mettent un petit sachet, par exemple, de vessie de serre avec des plantes dedans. Et voilà, ça, un petit sachet dans beaucoup de compost ou de fumier, ça bonifie tout le fumier. C'est des choses comme ça, quoi. Après, c'est ça, ça va être des petits boudins ou des petites solutions qu'ils vont mettre ponctuellement dans des, voilà, dans des grandes quantités, quoi. Parce que plus c'est dilué et plus ça s'adresse à l'éthérique. Parce que si on met trop de matière, en fait, on s'adresse à la matière physique, donc ça ne sert à rien, puisqu'elle n'est pas réelle. Ce qu'il faut, c'est s'adresser à l'éthérique ou à l'astral. Et plus c'est dilué, plus ça va s'adresser à l'éthérique, qui est donc un monde un peu plus subtil que le monde physique, ou à l'astral, qui est lui encore plus subtil, mais qui est un peu plus lointain, quoi, on va dire. Voilà.
Oui, juste pour rappeler au lecteur, enfin, je te pose les questions, voilà, pour l'interview, mais t'expliques là ça, tout ça super bien dans la BD. Hein, c'est ton ta BD est un
Oui.
manuel qui explique la biodynamie, enfin tout ce que tu viens de raconter. On peut le lire de manière très agréable, mais voilà. Ouais, on a évoqué tout à l'heure, mais tu pourrais dire un mot du lien avec Goethe, en fait. Pourquoi les Pourquoi les anthroposophes se cachent derrière Goethe, souvent?
Ben, Goethe, bon, ben, c'est le savant poète plus connu pour sa poésie allemand. Donc, et vraiment la référence, c'est comme Shakespeare pour les Anglais, Molière pour les Français, quoi. Donc, bon, c'est inattaquable. Et il a fait, en dehors de ses travaux poétiques ou ses romans, il a fait des recherches scientifiques, comme ça se faisait à l'époque. Bon, ben, les gens étaient moins partitionnés que maintenant, donc un poète pouvait très bien faire de la science, c'était pas choquant. Simplement, il a fait des observations, il a eu des résultats qui n'ont pas toujours été. Bon, il devait être un petit peu rêveur, je ne sais pas. Mais enfin, bon, après, il y a des résultats de Goethe qui peuvent être intéressants, mais il avait une vision un peu différente de Newton, par exemple, pour les couleurs. Il a fait toute une théorie des couleurs qui n'a rien à voir avec celle de Newton, donc qui n'est pas valide d'un point de vue physique ou optique, quoi. Il a fait aussi beaucoup d'observations botaniques. Et dans la botanique, il a indiqué qu'il y avait des mouvements spiralaires et tout. Donc, ça reste quand même raisonnable chez Goethe. Hein. Mais Steiner, lui, il a commencé sa carrière en archivant toute l'œuvre scientifique de Goethe. Donc, il a beaucoup lu ça. Et il s'en est beaucoup inspiré. Mais il a, pour le tordre dans une perspective mystique, en fait, spiritualiste, quoi. Et donc, c'est ça, il s'est accaparé Goethe pour en faire autre chose, en fait. Et ce qui fait que, quand on parle d'une approche goethéenne dans la nature, maintenant, en fait, on fait plus référence à une approche de Steiner, enfin, d'anthroposophie du New Age, en fait, quand on entend ces mots, approche goethéenne de la nature, moi, j'ai des voyants qui s'allument. Mais comme Goethe, il est inattaquable parce que c'est le grand homme allemand, donc on peut rien dire, quoi. Voilà. Donc c'est une façon effectivement de se cacher derrière le grand homme pour dire, mais voyez, c'est Goethe qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Sauf que c'est une déformation des découvertes ou des travaux de Goethe, on va dire. Voilà.
Oui, quand j'étais adolescent, j'avais un peu lu ce genre de choses. C'est vrai que j'avais été assez impressionné par les références à Goethe, mais bon, assez rapidement, quand on commence à s'intéresser à la science, on dit oui, mais bon, de toute façon, Goethe, voilà. Même si je ne sais pas si ce qu'il dit était valide ou pas à l'époque, mais bon, de toute façon, avec il y a quoi, 150 ans qui ont passé, donc de toute façon,
Oui,
ces
tout à
études
fait.
sont dépassées, quoi. Je veux dire, on ne doit plus faire de la science sur base de Goethe à l'heure actuelle, c'est à cause du progrès scientifique.
Non, oui, bien sûr. Oui, et puis il a
Mais c'est vrai que
dit.
les gens qui sont pas dans des milieux scientifiques, ils s'en rendent pas compte de ça, ou ils n'ont pas ce réflexe de dire, oh non, ce qu'il faut faire, c'est aller voir les trucs les plus récents ou les.
Eh oui. C'est ça, oui. Oui, et puis bon, comme je disais, même pour l'époque, il n'était pas tout à fait dans les clous, mais bon, il a fait des choses intéressantes quand même, quoi. Mais il se trouve que sur beaucoup de points, c'est pas lui qui avait raison, quoi. Bon, après, sur la botanique, ouais, bah, il a développé des théories, quoi. En fait, par exemple, il a développé une théorie que dans une plante, quand on voit une plante, il y a une image de cette plante quelque part qu'elle va chercher à reproduire. Et donc, c'est pour ça que toutes les plantes sont un peu pareilles. Alors, on peut dire, bah, peut-être qu'il a, ça s'est développé, c'est le génome, en fait. Voilà, c'est l'image de la plante qu'elle a en elle. Et voilà. Pour Steiner, c'est pas ça, c'est que c'est l'esprit de la plante. En fait, c'est l'âme groupe de la plante ou l'esprit de la plante qui. Voilà. Donc, bon, après, ça dépend ce qu'on fait de ces prémices de recherche, quoi. Voilà.
Comment on interprète ce qu'il dit? Ouais, non, c'est clair. Ouais, bah, très bien. Écoute, moi en tout cas, franchement, j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose un point que j'aurais pas abordé, que tu voudrais aborder, ou sinon on va tout doucement aller vers la fin de l'interview.
Ouais, bah moi j'ai beaucoup de discussions, enfin de discussions, il y a pas mal d'anthroposophes sur le web qui me prennent un peu à partie, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Après, on peut dire que l'anthroposophie, enfin les racines intellectuelles de l'anthroposophie, c'est vraiment le romantisme allemand en fait, hein. Et que bon, bah, il y a pas mal de gens qui font des recherches sur l'anthroposophie aussi, sur les racines intellectuelles de l'anthroposophie. Et il y a aussi des aspects très déplaisants chez Steiner, notamment sur les théories des races. Il y a une théorie des races, alors qui est pas un nazi, hein, qui est pas, mais où il y a quand même des points de rencontre. Voilà. Il y a eu des liens entre des anthroposophes et des nazis. Mais bon, ça c'est un peu tard pour rentrer dans ces détails-là. Ça mériterait des plus amples. Disons que c'est une philosophie qui se présente comme quelque chose de très cool et qui l'est pas forcément. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est un peu inquiétant dans ces trucs-là. Voilà.
Ce qu'il y a, c'est que Steiner est mort bien avant
Oui.
vraiment la Seconde Guerre mondiale. Donc, enfin, je vérifiais juste là en 25. Donc,
Oui, tout à fait,
mais c'est vrai
oui.
qu'il est dans des courants de pensée, voilà, qui en Allemagne n'étaient pas très très agréables. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin voilà, je pense que effectivement, enfin il faut dire que Steiner était nazi, c'est un
Non, non, il
raccourci.
n'était pas, il n'était pas, on ne peut pas
Mais
dire
non,
ça.
c'est parce que c'est vrai que sur Twitter, les anthroposophes nous rentrent dedans en disant, oh, vous dites ça, mais.
Oui. Non, non, ça
Mais
serait absurde de dire ça. Après, il y a eu des nazis qui étaient un peu séduits par la biodynamie notamment. Il y a eu dans des camps de concentration, il y avait des cultures en biodynamie. Mais après, c'est vrai que les nazis et les anthroposophes n'étaient pas forcément copains. C'est-à-dire que effectivement, les nazis ont fermé des écoles Steiner parce que il y avait des nazis occultistes et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc il y avait aussi des schismes entre. Voilà, donc. C'est des choses assez complexes, quoi. Donc
c'est la
c'est difficile
complexité
de
du
rentrer.
réel,
Ouais, voilà.
on n'est pas dans Indiana Jones où tous les nazis sont des méchants occultistes.
Non, ils sont tous enfin, plus ou moins méchants, mais pas tous occultistes, en tout cas.
Mais
Bon.
pour le racisme de Steiner, corrige-moi si je me trompe, mais il a une sorte de théorie de la réincarnation, qu'on se réincarne à travers
Oui,
des
c'est
gens de
ça.
plus en plus blancs, c'est pas ça, ouais.
C'est ça, ouais, exactement. Ben, c'est-à-dire, on est de. Normalement, si on va dans la bonne direction, on est de plus en plus proche du spirituel et donc de plus en plus proche du modèle germain de l'Europe centrale, on va dire. Voilà. Ouais, parce que il y a des histoires avec les Atlantes, avec les Lémuriens qui sont nos ancêtres. Et alors, les Lémuriens qui ont un peu dégénéré deviennent un peu noirs. Hein, voilà. Bon. Comme ça, quoi. Bon, après, c'était dans les années 20, alors. Mais bon, c'est quand même pas très
Ouais,
sympa.
c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Je veux dire, bon, voilà. Après, c'est ouais. Parce que j'ai souvent ce genre de conversation autour de Lovecraft, qui était très, bon, je veux dire, très raciste. Hein. Mais
Ouais.
est-ce qu'il était, on dit, est-ce que c'est parce que c'était un homme de son temps ou est-ce que c'était juste quelqu'un de très raciste, plus que son temps? Mais
Alors, en
c'est
fait,
difficile à dire, mais.
ouais, c'est ça. Le cas de Steiner est bon, pas tellement intéressant aujourd'hui, enfin si, pour des historiens ça peut l'être, mais ce qui se passe c'est qu'il est considéré quand même comme un clairvoyant qui a lu les chroniques de l'Akasha, donc ou toute l'histoire de l'humanité, voilà, donc on ne peut pas le remettre en question, quoi. Donc ça pose un petit problème pour les anthroposophes d'aujourd'hui, par rapport à ces théories des races, qui ne sont pas remises en question. En fait. Bon, et ils le nient, mais en fait, voilà, comme ils ne remettent pas Steiner en question parce qu'il était clairvoyant et que Steiner avait une théorie des races, voilà, bon,
Ouais, c'est ça,
on peut en tirer que certaines conclusions, quoi.
ouais. C'est ça, quoi. Ouais, non, mais ouais. Bah, de toute façon, moi, je pense que ça vaut la peine de pointer ce genre de problème. Voilà, il faut au moins que
Oui,
les gens se
bon,
rendent
je ne veux pas
compte, quand
non plus
même.
revenir systématiquement là-dessus, mais c'est difficile de parler d'anthroposophie sans aborder ça. C'est comme si on. Voilà, enfin voilà, c'est problématique aussi de ne pas en parler, quoi. Voilà. Autant que d'en parler, mais bon.
Ok, bah super. Bah, écoute, je vais remontrer la BD. Hein. Donc c'est Cosmo Bacchus, le titre de la série. Alors le tome 1, il s'appelle Lucifer. Le tome 2, il s'appelle Ahriman. Et le tome 3, Sorath. Et très bien. Évidemment, je les conseille. Je crois, enfin, franchement, je pense que c'est de la bonne littérature zététique, même si tu n'étais pas zététicien avant de commencer la BD. Donc je pense que tous les sceptiques devraient l'acheter pour encourager ce genre de travail. C'est super. Hein. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris.
Oh, merci beaucoup.
C'est mérité, je pense que vraiment je trouve que le travail que tu as fourni était t'as pas
Non, ça, j'ai
chômé.
pas chômé. Comme dit mon éditrice, j'ai beaucoup donné de ma personne,
C'est clair.
notamment dans les salons du vin.
Mais c'est vrai que là, il faut.
Ouais. Bon, alors, je tiens à dire pour ceux qui liront le tome 3 que celui-là. Enfin, tout ce qui est dit au niveau théorie, machin, est vrai. Par contre, au niveau des histoires où le personnage devient un petit peu fou, ça, c'est faux. Je suis parfaitement sain d'esprit. Hein. Voilà.
Ouais, là, c'était un peu la
Enfin,
différence qui est triste.
c'est ce que je, c'est l'impression que j'ai. Après, on peut jamais dire soi-même. Hein.
Bien. Ok,
Voilà.
bah écoute, encore merci d'être venu. Et puis, moi, je pense aussi qu'il y a d'autres. Enfin, tu n'as été invité par personne encore, La Tronche en biais et tout ça. Et je suis le
La
premier.
tronche en biais a montré mes livres à l'écran quand même,
Ah, ok,
donc ça m'a un peu boosté quand
ça t'a
même.
un peu boosté. Ouais, non, mais il faut
Ouais.
faire plus que montrer tes livres. Hein. Il faut t'inviter, je pense.
Eh bien.
Peut-être pas La Tronche en biais, mais enfin, je veux dire, il y a d'autres podcasteurs que moi. Hein. Il faut, si
Ouais,
Monsieur
ouais.
Sam nous écoute ou comme ça, des gens qui, des
Ah, je vais
youtubeurs
en. Ouais.
qui touchent beaucoup de monde.
Ok. Bah, je
Moi,
vais me renseigner
je suis
alors
un peu
là-dessus.
le, tu sais, le truc que vraiment les esthéticiens hardcore écoutent.
Ouais, c'est ça,
Ceux qui
ouais.
ont beaucoup d'expérience.
Ah ben
Mais
c'est bien déjà, c'est pas mal. C'est
très bien.
chouette. Hein. C'est la référence. Voilà.
Cool.
Sérieuse, quoi.
Merci. Eh ben, au revoir, à la prochaine.
Eh bien,
Ciao,
merci beaucoup pour l'interview. À la prochaine.
ciao. Au revoir.
Au revoir.